إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous avons vu dans le dernier cours quelques questions au sujet de la purification, sa définition et ses catégories, ainsi que le jugement des différentes eaux, afin de savoir si celles-ci peuvent être utilisées pour la purification. Et on a vu que la base concernant l'eau est qu'elle est pure et purifiante, sauf si une de ses propriétés est altérée par une impureté, auquel cas elle devient impure et il n'est plus permis de l'utiliser dans la purification. Le chapitre suivant que nous allons voir aujourd'hui concerne les récipients, c'est-à-dire les objets qui peuvent contenir de l'eau ou autre chose semblable. Étant donné que l'on se purifie avec de l'eau, nous avons forcément besoin d'utiliser des récipients pour la conserver ou la transporter. Nous avons donc besoin de savoir quels sont les récipients qui nous sont permis et quels sont les récipients qui nous sont interdits. Et la mention de ce chapitre, après le chapitre sur les eaux, attire notre attention sur un point important qui échappe à beaucoup d'entre nous lors de la purification. En effet, en raison des facilités qui nous ont été accordées à notre époque, beaucoup de musulmans ont tendance à utiliser l'eau avec excès, que ce soit lors des ablutions ou du grand lavage. On voit beaucoup de gens, par exemple, lorsqu'ils font les ablutions, ils laissent l'eau du robinet couler. Et ceci est une forme de gaspillage et d'excès de laquelle le musulman doit s'écarter. Car il est légiféré lors de tes ablutions de ne pas faire usage de l'eau avec excès. En effet, il est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faisait ses ablutions avec un moud et le grand lavage avec un sa'. Donc le sa', il représente 4 mouds. Et le moud, il équivaut approximativement à un peu plus de 600 millilitres d'eau. On voit donc que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait ses ablutions avec à peine un peu plus d'un demi-litre d'eau et le grand lavage avec moins de 3 litres. On voit que beaucoup d'entre nous aujourd'hui sommes très loin de cela. Et nombreux sont ceux qui exagèrent à ce sujet et pensent qu'il fait partie de la perfection de la purification de faire usage de l'eau avec excès. Et ceci est une erreur. Au contraire, il est recommandé de ne pas utiliser l'eau avec excès. Et pour ce faire, le plus pratique sera d'utiliser un récipient dans lequel tu mettras l'eau nécessaire pour te purifier. Et attention, ceci ne veut pas dire qu'il n'est pas permis d'utiliser plus d'eau que cette quantité, d'autant plus s'il y a un besoin en cela. Mais il est recommandé de se rapprocher de cela et de ne pas faire de gaspillage. Ceci est donc un point très important sur lequel je souhaitais attirer votre attention ici, avant d'entrer sur les questions qui concernent les récipients. Et concernant les récipients, il faut savoir que la base les concernant est la permission, c'est-à-dire qu'il est permis d'acheter et d'utiliser tout récipient jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une preuve démontre l'interdiction de l'utilisation de l'achat d'un récipient. Et ceci est une règle générale en réalité, qui concerne tous les objets et toutes les choses qui se trouvent sur terre et dont on peut tirer profit. La base est la permission. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 29 de Surat al-Baqarah, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala « Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a » C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ce qui se trouve sur terre afin que l'on en tire profit. Ceci est la base. Puis, il y a certaines choses qui nous ont été interdites et ceci est démontré par les preuves du Coran et de la Sunna. Et nous allons justement voir aujourd'hui 4 questions à ce sujet concernant les récipients. La première question concernera le jugement de l'utilisation des récipients en or ou en argent. La deuxième question, le jugement de l'utilisation d'un récipient soudé avec de l'or ou de l'argent. La troisième question, Le jugement des récipients des mécréants. Et enfin, la quatrième question, le jugement des récipients fabriqués à partir du cuir de bête morte. La première question est donc, quel est le jugement de l'utilisation des récipients en or ou en argent? On a vu la règle de base concernant les récipients, et que la base est la permission. Donc à partir du moment où ces récipients sont purs et licites, quels qu'ils soient, il est permis de les utiliser pour manger ou pour boire, de même que pour y placer de l'eau avec laquelle on se purifie. Même si ces récipients sont précieux, même si ce sont des récipients qui coûtent cher, il n'y a pas d'interdiction car la base, comme on l'a vu, est la permission. Et il n'y a aucune preuve interdisant l'utilisation de récipients qui sont précieux. Toutefois, il y a une exception à cela. Et cette exception concerne les récipients en or et en argent, dans lesquels il n'est pas permis de boire et de manger, et ce, à l'unanimité. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit dans le commentaire de l'authentique de l'imam Muslim, les musulmans sont unanimes sur l'interdiction de boire et de manger dans un récipient en or et un récipient en argent. Et l'interdiction concerne aussi bien l'homme que la femme. Fin de citation de la parole d'Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Et la preuve à ce sujet est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: Ne buvez pas dans les récipients en or et en argent, et ne mangez pas dans leurs plats. Ils sont pour eux dans ce bas monde et pour vous dans l'au-delà. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ici interdit explicitement de boire et de manger dans les récipients en or et en argent. Et il nous a expliqué la cause. Il a dit car ils sont pour eux dans ce bas monde. Pour eux, c'est-à-dire pour les mécréants. Quant aux croyants, ils n'utilisent pas ces récipients dans ce bas monde car ils seront pour eux dans l'au-delà. Ceci est une des raisons pour lesquelles l'utilisation de ces récipients est interdite, pour boire et pour manger. Toutefois, qu'en est-il de les utiliser pour se purifier, c'est-à-dire pour mettre de l'eau avec laquelle tu vas te purifier? Les savants ont divergé à ce sujet. Certains ont dit que l'interdiction mentionnée dans le hadith est spécifique au fait de boire et de manger, car c'est ce qui est mentionné explicitement. D'autres ont dit que l'interdiction est générale et qu'il n'est pas permis d'utiliser ces récipients d'une quelconque manière, ni même de les acheter. Et ce, car le fait de les acheter pourrait conduire à les utiliser pour boire ou pour manger. Il est donc obligatoire de fermer cette porte afin de se préserver de l'interdit. De plus, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, ils sont pour eux dans ce bas monde. Dans ce bas monde, c'est-à-dire de manière générale. Que ce soit pour boire, pour manger, pour décorer ou pour les utiliser pour se purifier. Et ils sont pour vous dans l'au-delà. C'est-à-dire que les croyants, ils se réservent ces récipients pour l'au-delà. Et ils ne les utilisent pas d'une quelconque manière ici-bas. Reste à savoir quel est le jugement des ablutions faites à partir de l'eau contenue dans un récipient en or ou en argent. Donc on a vu qu'il n'est pas permis de les utiliser. Mais si une personne utilise un de ces récipients pour se purifier, qu'en est-il de la validité de ces ablutions? La réponse est que ces ablutions sont valides, malgré l'interdiction de l'utilisation du récipient, car l'interdiction n'est pas spécifique aux ablutions. Cela n'a donc pas d'incidence sur leur validité. La deuxième question est quel est le jugement de l'utilisation des récipients soudés avec de l'or ou de l'argent? Il se peut qu'un récipient soit cassé ou qu'il soit fendu et que pour le réparer, on ait besoin de le souder. Si cette soudure est faite avec de l'or, ce récipient sera alors interdit de manière absolue, car il entre dans la généralité du hadith. Toutefois, si la soudure est une légère soudure en argent, alors il sera permis d'utiliser ce récipient d'après ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. En effet, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte d'après Anas radiyallahu ta'ala anhu que le récipient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était cassé et qu'il a placé dessus une chaîne d'argent à l'endroit de la fissure. Ceci est donc une preuve qu'il y a une exception à ce sujet concernant l'argent. Et que si le récipient est soudé d'une légère soudure, que celle-ci est en argent et qu'il y a un besoin en cela, alors il sera permis d'utiliser ce récipient, inshallah ta'ala, et ceci est une exception à la généralité. La troisième question est: quel est le jugement des récipients des mécréants? Ceci également est une question très importante. Ai-je le droit d'utiliser le récipient, la tasse, le verre, l'assiette d'un mécréant? La réponse est que la base concernant les récipients des mécréants est la permission, sauf si l'on sait que ces récipients sont impurs. Dans ce cas précis, il ne sera permis de les utiliser qu'après les avoir lavés. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. D'après Abu Tha'laba Al-Khushani, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: j'ai dit ô messager d'Allah, nous nous trouvons sur une terre d'un peuple des gens du livre. Pouvons-nous manger dans leur récipient? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors: ne mangez pas dedans, sauf si vous ne trouvez rien d'autre qu'eux, alors lavez-les, puis mangez dedans. On voit donc dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis de manger dedans à condition de les laver. Et les gens de science ont dit que si les propriétaires de ces récipients ne sont pas connus pour y placer des choses impures, alors il sera permis de les utiliser. Car il est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, que lui et ses compagnons ont pris de l'eau pour les ablutions d'un récipient d'une femme polythéiste. Ils ont donc utilisé cette eau pour se purifier. De plus, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis la nourriture des gens du livre. Et il ne fait aucun doute que cette nourriture, ils nous la serviront dans leur récipient. De la même manière que cela est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un jeune juif l'a invité à manger du pain d'orge avec de l'huile, duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé. Et ceci est rapporté dans un hadith par l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, et a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. On voit donc que si ces mécréants ne sont pas connus pour placer dans ces récipients une impureté, comme de la viande de porc par exemple, alors il n'y a pas de mal à utiliser ces récipients. Mais si on sait que il peut y avoir une impureté dans ces récipients, alors on ne les utilisera qu'après les avoir lavés. Enfin, la quatrième question que nous allons voir dans le cours d'aujourd'hui est: quel est le jugement des récipients fabriqués à partir du cuir de bête morte? Les gens de science ont mentionné que la peau de la bête morte, une fois qu'elle est tannée, il est alors permis de l'utiliser. La preuve à ce sujet est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: toute peau qui est tannée est certes purifiée. De même qu'il est un jour passé, un jour à côté d'une bête ovine, un mouton, une brebis, qui était morte. Il a alors dit, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi n'ont-ils pas pris sa peau pour la tanner afin d'en profiter? On lui a alors dit, mais c'est une bête morte, car la bête morte est impure. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit alors, ce qui est interdit, c'est de la manger. Donc ceci concerne la bête morte sans avoir été sacrifiée de manière légiférée, mais qui fait partie des bêtes licites à la consommation, comme le chameau, le bœuf, le mouton et autres. Quant aux bêtes qui ne sont pas licites à la consommation, mais qui sont pures, alors les gens de science ont divergé à leur sujet. Certains ont dit que celles-ci entraient dans la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith: toute peau tannée devient pure. Et ils ont seulement fait exception des peaux des animaux impurs, à l'exemple du chien et du porc. Et d'autres ont dit, comme c'est le cas des auteurs de ce livre, que seule la peau de la bête morte, parmi les bêtes licites à la consommation, peut être purifiée par le tannage. Donc en résumé, tout animal qui est mort sans être sacrifié, si c'est un animal qui est licite à la consommation, s'il est sacrifié de manière légiférée, alors sa peau sera purifiée par le tannage. Et tout animal qui est mort et qui n'est pas licite à la consommation, alors sa peau ne pourra pas être purifiée. Et comme on l'a dit, certains ont dit que cela concerne en réalité tous les animaux, à l'exception du chien et du porc dont la peau ne peut être purifiée. Et concernant les poils et la fourrure de la bête morte parmi les animaux qu'ils sont licites à la consommation, alors ils sont purs et il est permis de les utiliser et d'en tirer profit. Car c'est seulement la viande de la bête morte qui est impure et qu'il n'est pas permis de manger, comme il est venu dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 145 de Sourate Al-An'am, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. Dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête morte ou le sang qu'on a fait couler ou la chair de porc, car c'est une souillure. Donc ce qui est interdit dans la bête morte, c'est seulement sa chair. Quant à sa fourrure, elle peut être utilisée si cette bête est un animal qui à la base est licite à la consommation. Il est permis donc de profiter de sa fourrure et également de sa peau si celle-ci est tannée. Et le tannage consiste à nettoyer la peau de toute impureté, et ce en utilisant certains produits ou certaines matières mélangées à l'eau comme du sel ou autre, afin de la purifier. On a donc terminé avec les questions liées à ce chapitre concernant les récipients. Et nous verrons dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, les questions liées aux bienséances et au comportement au moment de faire ses besoins. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم